Trainville PM. Politique.
La question que tout le monde se pose ce matin, c'est mais quelle mouche a piqué Jean-François Lisée? C'était une question qui portait sur la santé. La grande priorité de Jean-François Lisée, là, c'était de poser des questions sur la structure interne à Québec solidaire.
Pour l'instant, Québec solidaire a eu une partie gratuite. Et je pense que Québec solidaire n'a pas eu à se livrer à une reddition de comptes quotidienne comme nous avons eu à le faire les trois autres parties.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, vous avez entendu Gabriel Nadeau-Dubois, suivi de Jean-François Lisée. On va tout de suite, sans plus tarder, analyser tout cela et bien d'autres choses encore avec Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Et Carl Bélanger, consultant en communication, stratège politique. Bonjour.
Messieurs, bonjour.
Allons-y, avec cette affaire... Sur ce qu'on a appelé, avec un petit peu de dérision, le politburo de Québec solidaire. Qu'est-ce que tu en penses, Paul?
Ben, je pense que Jean-François Lisée a eu l'air fou. C'était pas le bon moment pour parler de ça au début du débat, dans une question sur la santé. Et en plus, il y a à peu près personne au Québec qui a compris de quoi il parlait.
Mais là, c'est en train, Paul, ça continue un matin, là. C'est plusieurs journalistes qui écrivent là-dessus. Nous autres, on a essayé d'avoir celui qui est officiellement le chef de Québec solidaire, Gaétan Châteauneuf. Et sais-tu quoi? Il va finalement nous parler à 13h05. Donc, il va venir expliquer son rôle. Peut-être qu'il a eu l'air fou, Lisée, mais peut-être qu'il a semé quelque chose aussi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur le fonctionnement interne.
C'était vraiment ça, le message de fin de campagne du PQ de Jean-François Lisée, c'est de parler de QS comme un gouvernement potentiel, puis de... Moi, je pense que c'est une erreur stratégique et tactique fondamentale que Lisée a fait hier.
Et il semblait s'en être rendu compte assez rapidement après l'avoir dit. Là, il a tout de suite senti que ça n'avait pas fonctionné. Par contre, Bernard, il y a une question, je trouve, qui serait pertinente à poser à Québec solidaire d'ici la fin de la campagne. Quand tu regardes les sondages, tu vois que la possibilité d'un gouvernement minoritaire est réelle. Et s'il y a un gouvernement minoritaire, ben c'est possible qu'il y ait une coalition qui soit formée avec Québec solidaire. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'avec la structure de porte-parole où Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois sont les deux porte-parole, ben comment ça fonctionnerait s'ils devaient faire des négociations pour un gouvernement de coalition? Est-ce qu'ils auraient les coups des franches ou est-ce que ce serait seulement des porte-parole sans mandat de conclure une entente qui devrait retourner voir le comité de coordination nationale de Québec solidaire?
Ben là, Paul, t'es en train de donner raison à Lisée, là?
Ben non, attends, je dis que premièrement, il aurait dû bien l'expliquer. Deuxièmement, pas juste attaquer, parce que Lisée, il fait ça au début du débat, en l'expliquant tout croche, dans une question sur la santé, puis il attaque la raison d'être de cette structure-là en disant qu'elle est illégitime. Moi, ce que je me demande, c'est une question beaucoup plus pratique. Je voudrais savoir comment ça va fonctionner. Peut-être que la réponse, c'est que Manon Massé puis Gabriel Nadeau-Dubois aurait les coups des franges pour négocier. Mais moi, c'est juste ce que je voudrais savoir parce que, tu te souviens, Bernard, avec le comité Oui Québec, il y avait eu des négociations. Andrés Fonticella, président de Québec solidaire, avait signé une entente avec les autres groupes indépendantistes. Fonticella se revire de bord. Va voir le comité. Oui, c'est ça.
Fonticella.
Merci.
Oui. Bon. Ça va, continue.
Oui. Il y avait presque un sans-faute jusqu'à date, Bernard. Oui, il se retourne, il va voir son comité de coordination puis ils lui disent, finalement, non, ça ne nous satisfait pas.
Le fameux coco, c'est comme ça qu'ils l'appellent, les solidaires. Ils l'appellent le coco. C'est le comité de coordination ou le comité coordonnateur qui est, dans les faits, une espèce d'exécutif national, mais très décisionnel. Et effectivement, il y a beaucoup de décisions qui passent par le coco. Et dans certains cas, c'est clair que les porte-parole, que sont Nadeau-Dubois et Massé, ne peuvent pas aller de l'avant sans obtenir l'aval du comité de coordination.
Attention, on a été dans cette situation-là dans le passé. Là. Il y a eu des gouvernements minoritaires où le Québec solidaire était présent. On avait Amir Kadir, on avait Françoise David. Ils ne sont pas nés d'hier, Québec solidaire. C'est leur cinquième élection. Leur structure est la même.
Carl, il n'y avait pas la balance du pouvoir.
Non, ça, c'est jamais arrivé.
J'étais dans ces parlements-là. Il y avait la balance du pouvoir dans le Parlement de 2007. C'est le Parti québécois qui l'avait. L'opposition, je te le rappelle, c'était Dumont. élections. Et en 2012, la balance du pouvoir, c'était la CAQ qui l'avait. Oui, mais QS n'a jamais eu la balance du pouvoir.
Mais c'est quand même bizarre qu'après la cinquième élection, le dernier débat de la campagne, le Parti québécois sent le besoin de regarder derrière lui, en regardant Québec solidaire et en attaquant Québec solidaire, plutôt que de faire ce qu'ils ont fait dans le premier débat, c'est-à-dire de regarder en avant puis dire la CAQ, Parti libéral, c'est nos adversaires, c'est eux qu'on veut battre. C'est ça le message qui ressort ce matin, puis c'est pour ça que je dis que c'est une erreur.
Ben là, moi, je vais dire, Carl, le PQ, là, il voit QS monter, OK? Le QS, là, dans tous les sondages, là, ils sont rendus à 14, 15, 16. 14, 15, 16, 17. Dans le Main Street, il y a 24 heures, il faisait 20 % chez les femmes. Alors, si QS était à 15, 16, 17, puis le Parti québécois était à 21, 22, 23... Ben, je veux dire, c'est normal que Lizzie, à un moment donné, regarde le flanc gauche puis dise, coudonc, ils sont en train de manger mon steak. Ben, voyons, Carl.
Tu fais sortir quelqu'un d'autre. Tu fais sortir Véronique Yvon. Tu soulèves ses interrogations.
Mais Véronique Yvon, là. Véronique Yvon, elle ira pas.
Mais voilà, ça, c'est un problème de l'équipe du PQ. Mais tu fais sortir le chef dans la quatrième minute du débat. Écoute.
OK. De toute façon, ça reste une question secondaire. Moi, la question que je t'ai posée, Bernard, je la trouve intéressante. Moi, je dis pas
c'est
pertinente, importante.
Et je vais la poser à Gaétan Châteauneuf.
Moi, je suis pas en train de dire que la structure de Québec solidaire est illégitime ou dysfonctionnel, mais j'aimerais quand même qu'on m'éclaire avant l'élection, savoir comment ça fonctionnerait, mais c'est certainement pas la priorité, ça devrait certainement pas être la priorité du Parti québécois. Et puis, si tu concentres tes attaques en regardant derrière toi, au lieu de regarder devant, mais ça veut dire que tu es en train de jouer ta survie plutôt que tu es confiant d'aller gagner.
Tu légitimises Québec solidaire en faisant ça, à mon avis.
Ah, mais ça, c'est clair. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait auparavant. Lisée n'a pas attaqué Québec solidaire auparavant parce que Québec solidaire n'était pas suffisamment, mais disons-le comme ça, là, mais ne recueillait pas suffisamment d'appui, n'était pas suffisamment dangereux. Mais là, Québec solidaire, en montant, en termes d'appui populaire, deviennent de plus en plus sérieux comme adversaire. Et là, Lisée, c'est pas pour rien que Lisée a décidé de les attaquer hier. Là. Il les a attaqués hier parce que Québec solidaire est devenu un joueur sérieux dans cette élection. C'est ça la raison. Il n'y en a pas d'autre.
Ça doit être la raison. Tactiquement et stratégiquement, c'est pas la chose à faire. La chose à faire, c'est plus le message qu'il y avait à la fin.
La chose à faire, c'est de les ignorer.
Non, le message, c'est de faire ce qu'il a fait à la fin du débat, c'est-à-dire faire appel aux électeurs potentiels de Québec solidaire en disant, écoutez, Québec solidaire, ils sont pas rendus là. Le PQ, c'est le parti qui peut gagner et qui peut faire les changements pour que la prochaine fois, avec la réforme électorale, par exemple, Québec solidaire peuvent avoir véritablement... Donc, c'est le message qui est plus porteur. Faut que tu cajoles les électeurs de Québec solidaire. Si tu les prends de front, ça marchera pas.
Non, mais Bernard, pense aux gens qui regardaient le débat, qui ont suivi avec une certaine distance la campagne électorale, puis qui se demandent qu'est-ce qu'on leur propose pour les quatre prochaines années du Québec, puis qui se font parler de jeux de coulisses au sujet desquels ils comprennent rien parce que c'est expliqué tout croche. Est-ce que ça a vraiment avancé le débat public?
Mais là, je vous rejoins, puis je l'ai dit à Paul Arcand ce matin, je vous rejoins sur le fait qu'il a attaqué au mauvais moment, OK? C'était pas le temps au début. C'est absolument pas le temps. Et la manière avec laquelle il le fait, dans le bloc santé, a fait en sorte qu'il s'est coltaillé avec l'arbitre. Il s'est coltaillé avec le modérateur. Écoute,
il
tu vas pas
ça
te coltailler.
Fois hier,
bon, ben oui, bon. Alors, mais sauf que moi, les questions que je vous pose présentement, bon, je me fais un petit peu l'avocat du diable, c'est un fait, mais sur le fond des choses aussi, je pense qu'il y a matière à se questionner sur le fond des... Pas sur l'opportunité, appelons ça comme ça, là, c'est un anglicisme, mais sur le... Mettons, l'occasion tactique de le faire, ça, je suis d'accord, c'était pas une bonne idée, et je pense que c'est effectivement, il a perdu des points à cause de ça, Lisée. Mais sur le fond des choses, mais, je pense que c'est un débat qui est légitime.
Mais sur... Qu'est-ce qui est légitime sur le fond des choses d'attaquer
de
Québec solidaire?
De questionner le fonctionnement de Québec solidaire et de se poser la question, est-ce que si jamais vous êtes effectivement, comme tu le fais, Paul,
ben oui, mais moi,
si vous êtes dans une position...
Oui, j'ai dit ce que je pensais là-dessus, mais...
C'est légitime. C'est légitime de parler de ça, sauf que c'était tactiquement une erreur pour Jean-François Lisée, à mon avis.
De le faire à ce moment-là.
Et l'autre chose, je pense que Québec solidaire... Est content aujourd'hui, parce qu'on parle d'eux autres.
Mais
puis là, ils vont pouvoir expliquer leur modèle, ils vont pouvoir parler de démocratie, de décision collective, puis de faire la politique autrement, puis avoir un vrai modèle. Alors, eux autres sont très contents. Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin, là, il s'en pouvait plus.
Mais c'est clair, je pense que ça leur donne une visibilité. Et ben voilà, OK. Alors, on va s'arrêter, puis au retour, on va continuer à parler du débat. On va parler de, ben, des trois autres. Enfin, de, ben là, on a parlé de Lisée et Massé, on va parler un petit peu plus là, de Legault et Couillard au retour. Donc, de retour avec Paul Journet et Carl Bélanger. Au microphone ce matin de Paul Arcand, Paul, Philippe Couillard a réitéré là, ses déclarations sur la famille qui peut se nourrir avec 75 $ par semaine. Je dois dire qu'on va faire une petite tribune vers 13h15, 13h20 pour vous demander, cher public, votre plat le plus économique, celui avec lequel vous faites le plus de quantité pour le moins d'argent possible. OK? Ça va être
spaghetti,
intéressant.
Spaghetti sauce tomate.
Toi, c'est spaghetti sauce tomate?
Oui.
Paul, c'est
quoi? Écoute, je pense que mon budget de gruau pour le déjeuner dépasse le 75$ par mois, à moi seul. Puis on s'entend, je suis pas en train de te parler de caviar, là.
Mais non, mais
juste du gruau.
Puis t'es gros comme un... T'es gros, mais en tout respect, t'as des petits mollets de poulet, là, bien ben formés avec c'est... beaucoup de vélo. Mais
ils sont
gros,
très efficaces. Mais t'es gros comme... à l'épreuve, Bernard.
Mais t'es gros comme un chicot, hein, Paul.
Je te remercie.
Mais non, mais par rapport à moi, là.
Oui, ben c'est ça. Tu l'as dit. Donc, est-ce que tu veux que je te parle un peu du fond des choses, Bernard? Les gens, ils aiment ça.
Tu veux changer de sujet?
Non, je veux approfondir le sujet.
Vas-y,
on tourne autour, mais plongeons dans le vif.
Vas-y.
Écoute, je pense que tout le monde l'a dit. Philippe Couillard a été déconnecté. En ce moment, il essaie de rattraper sa déclaration, de la nuancer avec un succès ordinaire. Mais moi, ce que je trouve qui serait plus constructif comme conversation, ouais, c'est de se demander, ben, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas beaucoup, d'argent, qui ont de la difficulté à arriver aux fins de mois. Puis un autre chiffre là, qui me semble encore plus intéressant que le budget hebdomadaire d'épicerie, c'est 137 000 personnes, Bernard, à Montréal seulement, qui à chaque mois ont recours aux banques alimentaires. Ça en ouais, fait du monde, là. Des gens qui sont pas capables de payer toute la nourriture dont ils ont besoin. Qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Le gouvernement Couillard a eu une mesure positive, c'est-à-dire qu'ils ont bonifié l'aide sociale pour les gens qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Par contre, ils n'ont pas bonifié l'aide sociale pour le reste de la population, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de contraintes sévères, handicap physique, mental, etc. Et il n'y a pas eu de hausse très, très significative. Il y en a eu une légère, mais pas substantielle, du salaire minimum.
Mais c'est rendu à quoi? $12 là? Il est à 12
piastres? Un petit peu plus que ça, oui. Ouais. Okay. Mais c'est quelque chose d'assez dramatique dans une société quand tu as quelqu'un qui travaille à temps plein puis qui n'est pas capable de se nourrir. C'est un drame, ça.
Et il n'en demeure pas moins que Philippe Couillard a échappé le ballon là-dessus. Parce que, bon, le quartier général a bien tenté de rattraper, là, il poussait leurs initiatives anti-pauvreté, etc., etc., mais ça fait déraper son message, puis là, on est sur le deuxième jour, et on parle de l'épicerie à 75$, ça frappe l'imaginaire, puis ça, c'est un problème pour Philippe Couillard, parce qu'il aurait pu faire quelque chose de bon avec ça, mais à place de ça, il est en train de se défendre sur cette déclaration-là, et c'est dommage, parce que le Parti libéral était sur une lancée, ça allait bien depuis le débat, il a remonté dans les sondages, puis là, aujourd'hui, là, on parle de choses qui sont pas du tout dans le plan de campagne des libéraux.
Très bien. On parle de pauvreté. C'est rare qu'on parle de pauvreté
ouais,
dans
mais c'est
une
ça.
Campagne.
J'allais dire, c'est peut-être l'avantage de cette déclaration maladroite, c'est que finalement, on parle de pauvreté. Il nous reste 2 minutes pour parler de Legault. Vas-y, Paul.
Il s'est excusé. Je pense que c'est la chose qu'on a retenue. Mais moi, ce que je me demande, il s'est excusé de quoi exactement et à qui? C'est plus une excuse sur la forme que sur le fond, parce que ce qui lui était reproché, évidemment, c'est sur l'immigration, ces tests de langue et de valeur, que si tu les échoues, ben, t'es menacé d'expulsion. Donc, c'est excusé d'avoir mal expliqué le tout.
Là, ce que je comprends, c'est que quand il dit qu'il n'y aura plus d'expulsion, ce qu'il dit, ce que j'en décode, là, je peux me tromper, là, mais il recule là, visiblement, là, il ne veut plus parler d'expulsion.
Non, il
n'a
pas dit, il ne veut plus en parler, mais il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'expulsion.
Non, mais ce qu'il dit, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il y aura la personne qui va échouer les tests n'aura pas son certificat de sélection et donc pourrait rester un peu dans les limbes pas mal longtemps, puis ça s'arrêterait là.
Oui, mais j'aimerais ça qu'il me l'explique en plus en détail parce que là, il veut changer, il veut qu'on ait plus le certificat de sélection, qu'on ait une autre forme de certificat en changeant la loi. Puis est-ce que habituellement, c'est quelque chose qu'on octroie au début, le certificat de sélection? Donc, tu vois, si on s'en avait le temps de poser plus de sous-questions, peut-être qu'on aurait compris les contradictions dans la mesure.
Et mais moi, en même
si j'étais
temps,
François
en même
Legault, écoute, il y a quelque chose de très simple qu'il pourrait dire. Il pourrait s'engager à ce que personne soit expulsé dans son mandat. Pourquoi? parce qu'il y a au moins 3 ans qu'il faut que tu attendes pour les tests. Et donc, avant la fin de son mandat, il n'y aurait pas un seul test. Il pourrait s'y engager assez facilement.
Il me reste 30 secondes, Carl. Je me pose la question, moi, au-delà de ces questions-là, si le monde n'est pas tanné d'en entendre parler de l'immigration, est-ce que la fatigue risque pas, dans le fond, d'être le meilleur allié de Legault? Là?
Oui, puis d'ailleurs, hier, il a pivoté sur d'autres enjeux où il était plus confortable, notamment les symboles religieux. Il a contre-attaqué. Puis il faut dire, François Legault, il a appris ses leçons du premier débat. Hier, il était bon. Il avait les meilleures réparties, les meilleures contre-attaques. C'est vraiment lui qui a gagné hier.
Je suis d'accord qu'il était bon hier.
Carl Bélanger et Paul Journet, merci à vous deux.
Merci.